Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 4 mars 1992 à Saint-Jeudard.
Nous avions commencé dans l'éthique religieuse à voir comment l'adoration fait apparaître cette exigence d'humilité. Et nous nous posions la question, est-ce que l'adoration n'est-elle pas aussi ce qui va mettre en pleine lumière l'exigence de l'obéissance? Oui, c'est toujours pour se demander, ce qui n'est pas commode du reste, qu'est-ce que l'éthique religieuse, dont l'expérience pour nous est l'adoration, amène de nouveau par rapport à l'homme. Et si on supprime l'éthique religieuse, dans une attitude de laïcisation comme maintenant, qu'est-ce qui va dégringoler? Il est évident qu'il reste des quantités de choses parce qu'on vit une culture chrétienne. Parce que même ceux qui sont pour la laïcité absolue, ils sont nombreux aujourd'hui, puisque c'est eux qui sont au gouvernement. Et ils essaient de transformer plus de choses possibles avant les élections. On constate ça, on le voit bien. Il y a une attention très nette. Qu'est-ce qui tombe nécessairement, progressivement? Parce que ça peut tenir encore comme un signe d'un âge révolu. Il y a des pans de murs qui demeurent, vous savez, dans les ruines. C'est très curieux de voir les ruines. Voir comment certaines choses dégringolent avant d'autres. Et c'est très difficile à prévoir. C'est toujours très intéressant de regarder une ruine. Pourquoi telle porte est restée? Elle reste là, en suspens. Là, c'est tombé. On se pose un point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qui va dégringoler de notre éthique chrétienne dans cette laïcisation dans laquelle on est? Il faut être lucide, hein? Et on doit l'être. Le philosophe doit être lucide. Et donc, ce qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre avec lucidité ce qui va arriver. Et les gens dorment et ne se réveillent pas. Ils continueront de voter de la même façon. Hein. Et on dégringole, on dégringole. On a envie de faire comme les prophètes de Ninive. Hein. Attention, attention, si vous continuez comme ça, voilà ce qui sera. Vos fils et vos filles se suicideront de désespoir. Et vous en serez coupables. Parce que c'est, humainement parlant, on voit bien, et ça a sa répercussion jusqu'au point de vue économique. En Amérique, c'est autre chose, mais. Et dans l'Europe, c'est un peu général. Alors, on doit être lucide, on ne doit pas être prophète de malheur. C'est sûr, parce que. Nous avons une espérance qui dépasse tout cela. Si j'étais pour un messianisme temporel, je serais complètement dans le désespoir. Si j'ai un messianisme divin, le Christ est venu pour nous sauver et nous conduire à la vie éternelle. Ne pas faire faire régner ici, sur terre. Les chrétiens ont autre chose à faire que de régner sur la terre. Ils ont à préparer leur vie éternelle, ce qui est beaucoup plus important, puisqu'elle est éternelle. Tandis que construire sur la terre des choses importantes, c'est intéressant si on peut le faire. On a construit des cathédrales qui résistent. Elles demeurent, on les visite, on désire en faire des musées. On a encore dit ça l'autre jour, on a voulu faire de Chartres un musée, hein. Tout était prêt pour ça. On désire faire de Vesle maintenant un musée, tout est prêt pour ça. Les musées de la pierre. Parce que la laïcisation doit aller jusque-là, pour montrer que ces cathédrales servent de musées. C'est leur avenir. Dans la perspective de certains, c'est leur avenir. Très net. Et les plans sont faits pour ça. C'est pour ça qu'on a frappé à notre porte. On a frappé à la porte des Dominicains, maintenant on frappe à la porte de la congrégation. Les Dominicains disent impossible. Pour que Vesle redevienne un lieu spirituel. Quelques franciscains vieux s'en relèvent. Alors l'évêque s'inquiète, parce qu'il sait qu'on veut faire de Vesle un musée. Avec beaucoup de respect, il y aura 10 heures, on pourra célébrer la messe, mais témoin d'un âge révolu. C'est l'avenir, c'est ça. Et il faut être lucide vis-à-vis de ces choses-là. On n'a pas le droit de ne pas l'être. Le Seigneur veut qu'on soit lucide et qu'on voit les choses telles qu'elles doivent être vues. C'est toujours cette parole de Malraux, moi, que Malraux a dit il y a quelques années. Hein. Cette civilisation dans laquelle on est, je lui donne pas plus de 30 ans. Sauf s'il y a un grand élan mystique. C'est ce que essaie de faire le pape. Le renouveau. Un grand élan mystique qui renouvelle tout. Autrement, c'est la dégringolade. Alors, vous voyez la question qu'on doit tout le temps se poser. Et ça, c'est très important au point de vue philosophique. Et donc, au point de vue de la lucidité qu'on doit avoir. Une éthique religieuse est source de quoi? Posez-vous constamment la question. Hein. Et croyez pas que c'est résolu. Hein. Cherchez dans n'importe quel bouquin, vous ne trouverez pas. Ce sont des questions qu'on doit se poser qui ne sont pas du tout résolues. Vous avez des positions très nettes où toute l'éthique humaine repose sur l'éthique religieuse. Il y a eu encore un livre qui a dit ça. C'est une position que je juge de chrétienté. Et qui est une position d'une philosophie à partir d'une théologie. Je crois qu'on doit chercher autre chose. On doit comprendre que l'éthique se fonde sur l'homme et non pas sur la révélation. Elle repose sur l'homme. Il y a une philosophie éthique humaine. Bon, on a essayé de la voir l'année dernière, à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Jusqu'où va cette philosophie? Il y a une philosophie, il y a une éthique religieuse à partir d'adoration. L'emboîtement de ces deux éthiques, comment elle se fait? Pas comme on cherche, moi aussi je cherche, hein, avec vous. J'essaie de réfléchir là-dessus. C'est pour ça que j'aimerais votre coopération. Vraiment, vous essayez de chercher. Que ce soit pour vous un problème humain et le problème actuel. Parce que je crois que c'est un problème très actuel, ça. Et au réfectoire, on a lu cette enquête qui s'est faite pour bien montrer que c'est un problème actuel et qu'au fond, tout le monde qui se s'inquiète un tout petit peu de ce qui se passe dans la culture d'aujourd'hui s'inquiète de ça. Sur quoi repose l'éthique? S'il n'y a plus d'éthique, qu'est-ce qu'il y aura? Un âge sauvage. On retombera dans quelque chose d'un peu terrible. Le brigandage. Chacun sauve sa peau comme il peut. Et c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans certains aspects d'aujourd'hui, certains pays. Monseigneur Van Damme au Tchad me disait, les événements tels qu'on les vit actuellement vont augmenter le brigandage. Est-ce qu'on pourra encore tenir? Est-ce que c'est difficile pour des chrétiens de venir armés? Venez. Et d'autre part, est-ce qu'on a laissé la porte ouverte au brigandage? Parce que le brigandage peut aller assez loin. On peut tuer le propriétaire pour mieux voler. Ça se fait. Ça se fait proprement. C'est-à-dire qu'on a une petite ampoule où l'on endort le bonhomme et quelquefois il ne se réveille plus. On l'a pas tué, on l'a endormi. Et on a pris tout ce qu'il fallait. Parce que ça se fait, paraît-il, maintenant même dans les trains à couchette. On endort le bonhomme et on vole tout ce qu'il a. C'est quelqu'un qui me l'a dit encore l'autre jour. En Italie. Parce que ça se fait en grand. Et le bon père Patrick m'a dit, je faisais aller de Paris à Rome et heureusement je me suis tenu éveillé en priant. J'avais bien fermé tout. Un type est entré en ouvrant. Il y en avait un autre dehors. Alors il m'a vu réveiller. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un contrôleur? Ah non, viens voir. Mais venez voir quoi? Si on dort. Je ne savais plus quoi, dire. Alors il s'est levé, il a vu l'autre type là. Et il sait que ça se fait comme ça. On vit quelque chose qui est assez particulier. La désagrégation d'une culture. Oui, la fin de l'Empire romain n'a pas été très drôle. Mais la fin de la civilisation chrétienne qu'on vit actuellement, la désagrégation de notre Europe, du point de vue moral, éthique, est beaucoup moins drôle. Parce que l'Empire romain, il y avait l'ère chrétienne, l'espérance. Et maintenant, il y a le Saint-Père, le renouveau, cet appel. Alors, qui exige de nous d'aller beaucoup plus loin? Alors, vous voyez, la recherche que nous faisons, c'est d'essayer de comprendre, du point de vue de notre intelligence humaine, ce que une éthique religieuse porte. Qu'est-ce qui provient d'une éthique religieuse? Qu'est-ce qui est né d'une éthique religieuse? Je peux, dans l'analyse, le comprendre. Une analyse philosophique. C'est délicat, c'est pas commode à faire. Mais je crois qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. On verra ensuite ce que une éthique chrétienne porte et comment elle transforme tout. C'est pas une apologétique, c'est un regard philosophique sur l'éthique chrétienne. C'est pas de l'archéologie, c'est saisir actuellement dans l'homme, puisque le philosophe s'intéresse à l'homme, ce que l'éthique religieuse apporte à l'homme, ce que l'éthique chrétienne apporte à l'homme. Il y a un développement de l'homme qui s'est fait grâce à il y a eu une culture chrétienne. Il y a eu un art chrétien. Il y a eu une éthique chrétienne. Alors, je dis il y a eu parce que maintenant, je prends les gouvernements européens, lesquels demeurent sur le point de vue chrétien. Comme éthique liée à la politique. Il y a encore une éthique chrétienne familiale. Il y a encore, parce qu'il y a un journal. Donc il y a encore une éthique chrétienne familiale. Y a-t-il une éthique chrétienne politique ? Non. Il y a 100 ans, ça existait encore. Maintenant, on voit les pans de mur qui dégringolent progressivement. Ça se fait de façon très habile. On n'a pas le droit de ne pas le constater. On ne peut pas grand-chose. Hein. On ne peut pas grand-chose pour lutter. Mais on peut personnellement lutter. Et on peut éclairer des amis qui cherchent et qui comprennent. Et il y a des chrétiens qui s'interrogent, qui veulent comprendre un peu ça. Mais c'est pour ça que là, on touche quelque chose qui est notre vie. Hein. Considérez pas du tout que l'éthique, que l'étude de l'éthique, c'est pas notre vie. C'est notre vie. Notre vie humaine, religieuse, chrétienne. Et on essaie de jeter une lumière comprendre ce que l'éthique religieuse vient transformer dans la vie humaine. Qu'est-ce qu'elle vient transformer ? Elle apporte l'adoration. Ça, c'est sûr. Et il y aurait, il doit y avoir une union, j'allais presque dire sacrée, de tous ceux qui reconnaissent l'existence du Créateur et donc qui adorent. Je crois qu'il doit y avoir ça en face de ce mouvement de laïcisation positiviste qui est un grand raz-de-marée, qui est pire que la peste du Moyen-Âge. Ces grands mouvements barbare. C'est pire, parce que c'est intérieur. Et ça désagrège le cœur de l'homme. Ça désagrège l'intelligence de l'homme. On en subit les influences, si on ne fait pas grande attention. Et on est pris par ça. Et on se réveille, incapable de résister. Combien d'hommes, aujourd'hui, dont les grands-parents étaient chrétiens, voient-ils ça ? Ou sont-ils complètement indifférents ? C'est la mode d'aujourd'hui. Sans voir que, par là, l'humanité se désagrège. C'est un très bon sermon de carême. Ce que font le carême, c'est ça. C'est nous mettre en face de ça. Le carême, c'est premièrement se rappeler que le peuple Israël a été sous le joug des Égyptiens et a complètement perdu le sens de Dieu. 3 jours de marche dans le désert pour adorer. Notre éthique religieuse, c'est 3 jours de marche dans le désert, parce que ça ne se fait pas beaucoup, aller à la Sorbonne pour écouter une éthique religieuse. Désert complet. Allez dans nos universités catholiques pour écouter une éthique religieuse, désert. Très souvent, pas toujours, heureusement. Qu'est-ce que c'est que l'éthique religieuse ? Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? Pour ne pas nous laisser emporter. Alors, le carême, 3 jours de désert, ça dure un peu plus, ça a duré 40 ans. Pour nous, ça durera pas 40 ans le carême, mais ça pourrait, hein, pour redécouvrir le renouveau. Et le renouveau, l'adoration. On a essayé de comprendre philosophiquement, au point de vue éthique, éthique religieuse, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Comment l'adoration va permettre de donner naissance à la vertu d'humilité? Que l'humilité peut naître à partir de l'exercice de l'amour d'amitié. Mais la vertu d'humilité, non. Il y a des dispositions. Alors je me pose la question à propos de l'autorité et de l'obéissance. Puisqu'il n'y a d'obéissance que là où il y a autorité et coopération avec l'autorité. Donc question extrêmement intéressante, difficile. À quel moment l'autorité va naître dans le cœur de l'homme, dans l'intelligence de l'homme? Est-ce que ça repose sur le point de vue de la création? Est-ce que ça repose sur l'adoration? Peut-il y avoir une autorité purement laïque? Laïque dans le sens anti-religieuse. Laïque dans le sens non-religieuse. Je veux pas le savoir. Faites ce que vous voulez. Votre attitude religieuse, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec le point de vue politique. J'ai beaucoup, c'est comme ça. Je ne dis pas ça, moi. Ça a une répercussion politique. Vous voyez, la grandeur du discours du chef d'État du Sénégal au Saint-Père, il parle des croyants. C'est aussi très significatif. Et non pas de l'homme parfaitement homme qui reconnaît le Créateur. Il parle des croyants. Parce que pour beaucoup, l'attitude religieuse implique une foi. Alors que l'attitude religieuse, comme telle, doit se défendre au point de vue purement humain. Je comprends très bien l'attitude qu'il prend. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de comprendre que l'attitude religieuse est une attitude humaine. Pour ce chef d'État, c'est pour les croyants. Alors ça, c'est une question très grave. Est-ce que l'attitude des musulmans, de l'islam, implique plus qu'une éthique religieuse? Je crois que ça se ramène à une éthique religieuse. Mais on comprend, point de vue pratique, qui parle de croyants. Vous voyez, c'est là où je voudrais que votre sens philosophique s'éveille quand on est en face d'une affirmation comme celle-là. Est-ce que vous l'acceptez pleinement? Parce que vous dites, ah, il y a un petit quelque chose qu'il aurait pu découvrir. Distinguer ce qui relève de la foi, ce qui relève du religieux, de l'homme religieux. Et si vous ne faites pas cet effort maintenant, vous ne le ferez jamais. On continuera de se noyer tous ensemble. Alors qu'on doit faire cet effort de discerner. Si Dieu nous permet de faire des études philosophiques et théologiques, c'est pour être lucide, pour découvrir ce que c'est que l'homme et l'homme religieux. Et pour découvrir par le fait même aussi ce qu'est la foi. Bon, pour la foi chrétienne, c'est très net. C'est plus difficile pour la foi du musulman. Alors, est-ce qu'un musulman peut arriver à faire cette distinction que je fais maintenant avec vous? Je dis oui, parce qu'il reste un homme. Il y a une philosophie qui est née à l'intérieur de l'islam. Alors cette philosophie, il faut la réveiller dans l'islam. Et on doit la réveiller. Et pour la réveiller, il faut justement comprendre ce que c'est qu'une éthique religieuse. Alors, je me pose la question, hein. À quel moment naît l'autorité ? Nous avions vu la dernière fois la famille est le lieu où l'autorité s'éveille. Je crois qu'on peut le dire. La famille tout court. Or, la famille repose sur l'amour d'amitié. La procréation présuppose, comme le propre de la fécondité, un amour mutuel. Pour que cette fécondité reste humaine et qu'elle ne soit pas violente. Il y a une fécondité violente dans le viol. Il ne faut pas l'oublier. Et la vraie fécondité implique l'amour, un don mutuel. La fécondité qui provient du viol est quelque chose d'anormal et qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'elle implique cette violence. Elle implique une violence qui est la violence la plus terrible qui soit. C'est la violence la plus terrible qui soit, cette violence-là. Parce qu'elle touche ce qu'il y a de plus secret, de plus profond dans le cœur de la femme. Alors, si je regarde le point de vue de la famille, je vois que la famille comme telle repose sur l'amour d'amitié. Je ne dirais pas que la famille repose immédiatement sur l'attitude religieuse. La famille est humaine dans le sens de l'amour d'amitié. Or, la famille, pour exister, implique l'éducation. Pas de famille sans éducation. Le jour où il n'y a plus d'éducation, progressivement, la famille tend à disparaître. Vous avez l'union libre. Pourquoi l'union libre prend-elle tellement de force aujourd'hui ? Et pourquoi tant de jeunes ne veulent plus se marier ? Ils veulent vivre tout simplement d'une union libre. Parce qu'ils ne lient pas la responsabilité de la communication de la vie à l'éducation. C'est très vrai que quand la morale à disparaître, il n'y a plus d'éducation. La fameuse païdéia grecque, qui est quand même quelque chose de très important. Ça, je crois que c'est très intéressant et c'est un petit travail qui est facile à faire, mais très intéressant d'étudier la païdéia, l'éducation, dans la philosophie grecque. Et puis après, l'éducation dans le point de vue chrétien. Qu'est-ce que c'est que l'éducation chrétienne ? Vous voyez ? Parce que c'est l'aspect de la morale dans sa transmission. La païdéia, c'est pas l'instruction, c'est l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? Éduquer, c'est permettre à un tout petit qui n'a pas d'autonomie, n'a pas de personnalité psychologique et de responsabilité en avoir une. La païdéia est ordonnée à former des personnes humaines. Et ça se forme à travers une communication de la responsabilité. Donc, de l'éthique. C'est la transmission de l'éthique. C'est la transmission d'un patrimoine éthique. Transmet un patrimoine qu'on a reçu et dont on vit. Les éducateurs doivent vivre ce qu'ils enseignent. S'ils ne pas. Ce n'est plus une éducation. Tout ce que le père Jean, le père, notre père, essaie de faire dans sa Jean éducation, c'est justement de comprendre que l'éducation ne peut se transmettre qu'en étant vécu. Ce n'est pas un enseignement. C'est un témoignage. C'est un témoignage de vie. Il faut un milieu de vie pour transmettre ce patrimoine. Ce patrimoine qui se transmet à travers l'éducation implique une certaine autorité, implique une coopération. Et donc, une obéissance. Je crois qu'on peut dire que la famille liée à l'éducation, impliquant l'éducation. L'éducation n'est pas premièrement responsabilité de l'État. L'éducation est premièrement responsabilité de la famille. Je sais que là, il y a des positions politiques qui s'affrontent. Mais si je vais jusqu'au bout du réalisme, parce qu'il y a une position platonicienne et une position aristotélicienne. La position platonicienne, c'est que c'est l'État qui éduque. Et la position aristotélicienne, c'est que la famille éduque. Vous voyez, c'est très ancien ces positions. Aujourd'hui, on mettra des étiquettes, on dira attitude socialiste poussée jusqu'au bout. C'est l'État qui éduque. L'attitude de ceux qui respectent la liberté d'enseignement, c'est la famille qui éduque. Parce que la famille a le droit, et non seulement le droit, mais le devoir, d'éduquer selon un patrimoine humain qu'on possède, que les parents ont. Ils ont le droit de le transmettre. C'est quelque chose de plus sacré, dans le sens très très fort, que le don de la vie. Puisque c'est l'éveil de l'esprit. Et c'est permettre à l'enfant de devenir une personne. Être capable d'orienter sa vie. Donc, il y a là quelque chose de sacré. Il faut le reconnaître. Dans la mesure où il y a quelque chose de sacré, plus explicite, l'attitude religieuse est impliquée dedans. Vous voyez ? C'est là le point très délicat. Quelle mesure la païdéia, l'éducation, n'est-elle pas liée un patrimoine religieux. Et je pose des questions pour que vous puissiez les résoudre. Parce que c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est des questions difficiles auxquelles il faut réfléchir. C'est une très belle question disputée, ça. Parce que c'est une position très très délicate et très importante. Et si je vous donne la solution, vous oublierez, moi je veux vous poser le problème. Parce que ça, et si vous ne posez pas le problème vous-même, c'est des questions devant lesquelles on se trouve aujourd'hui, puisque tout est repris. Alors, transmission d'un patrimoine spirituel, l'éducation, est-ce que de fait, historiquement, ça a toujours été religieux? Le patrimoine familial est lié aux traditions religieuses. C'est un fait. Aujourd'hui, on veut séparer le patrimoine familial de l'aspect religieux. Platon ne le faisait pas. Les néoplatoniciens ne le faisaient pas. Et aujourd'hui, on veut le séparer. C'est légitime ou pas? non pas dans l'amour de l'homme, pour, de l'époux pour son épouse, non. C'est pas là l'autorité apparaît. C'est dans la païdéia. Génétique, selon l'aspect génétique, c'est ça où il apparaît en premier lieu. Alors, je repose le problème. Est-ce que cette transmission du patrimoine familial n'est-il pas toujours liée à l'attitude religieuse? Historiquement, c'est net. Aujourd'hui, on veut les séparer. C'est ça qu'on appelle l'école unique, dont l'État a toute la responsabilité. L'Église est contre ça. Ça, c'est l'Église. C'est la foi. De sorte qu'un chrétien, qui est vraiment chrétien, n'a pas le droit de voter pour un gouvernement qui veut une éducation unique. On est fixé sur la justice aujourd'hui, ça c'est le truc du démon. Parce que le démon plaide toujours la justice. La justice de droite ou la justice de gauche, vous savez. Hein. L'importance, c'est l'éducation. Et c'est là-dessus qu'on doit regarder. Un gouvernement qui plaide une éducation d'État sans respecter la liberté de la famille et donc l'éducation libre, on ne peut pas être d'accord. En tant que chrétien, en tant que philosophe, puis-je être d'accord ou pas? Vous voyez où se situe la question, hein? Vous voyez bien ça. Est-ce que philosophiquement, je puis essayer de comprendre si l'éducation implique nécessairement une attitude religieuse? Donc, au fond, elle entrerait dans l'éthique religieuse. Pouvez-vous penser une éducation qui ne soit qu'humaine au niveau de l'amour d'amitié? Où à ce moment-là, nécessairement, l'éducation devient étatique. C'est l'État. Est-ce que vous voyez bien le problème? Il faut bien le voir. Je reprends pour que vous voyez bien, parce que c'est important, ça. Et c'est la question, à quel moment apparaît l'autorité pour moi? Donc, position du problème. Selon la topique historique, toujours l'éducation est liée à l'attitude religieuse et elle est liée à la famille. Bien qu'il y ait des positions philosophiques qui naissent avec Platon, que l'éducation est remise à l'État. Alors Platon regarde que l'éducation doit être religieuse. On doit faire comprendre aux enfants l'existence des dieux, de Zeus. Ça, c'est très net. Platon est tout néo-platonisme. Mais l'éducation est remise à l'État. Elle n'est pas familiale. Aujourd'hui, nous constatons que les traditions religieuses étant en baisse de vitesse, en baisse d'influence, l'État voudrait éduquer l'enfant selon une éducation qui relève de l'État. Les parents, aucun droit. Ils n'ont qu'à payer l'éducation, l'impôt. Là, d'où vient cette position-là? Alors, est-ce que ça vient du fait que la famille n'est plus religieuse et que l'éducation, n'étant plus religieuse, ne peut plus que s'appuyer sur l'État? Autrement dit, une famille qui serait purement laïque dans le sens moderne, une laïcité qui ne veut pas regarder le point de vue religieux, qui ne veut plus regarder le point de vue religieux, Et donc ça proviendrait du fait que dans la paldéa, dans le fait de l'éducation, la famille ne voit plus la transmission du vrai patrimoine humain d'éducation et de la morale qui implique le point de vue religieux. Moi, je vous laisse réfléchir sur ce problème qui, je crois, est très important.